Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons reprendre cette semaine Braconnier d'eau douce et autres nouvelles de Michel Carcenac. J'avais pensé faire quelque chose sur les hydropathes suite au décès de Pierre Mulot, mais mon ordinateur a décidé autrement. Donc, Braconnier d'eau douce et autres nouvelles. Alors, j'en avais laissé quelques-unes en réserve. Voilà. Alors, après deux chevauchées, je lis ce qu'il y a sur la quatrième de couverture, après deux chevauchées à travers le Moyen-Âge, Michel Carcenac revient à des récits contemporains. Il anime une galerie de personnages ou en couleur ceux de son Périgord, le truculent Hubert qui épie son bateau, l'envol des hirondelles dans la nuit, tandis qu'un amont, l'ange blanc glisse sur le courant, l'officier de la deuxième DB aux prises avec des gitans, et Pascal Desgurande qui sauve son village de la famine. Il nous entraîne dans des histoires du coq et des tourterelles, du virat de la chevesse, sans oublier les tribulations des veaux. Perché sur son tilleul, le Jésus-Pampan, la riflette médite sur le bonheur de vivre à la campagne. D'un bond de kangourou blanc, nous sautons du bug à Surac, de Pissos à Amsterdam, de la double au Quercy et à la Genée. Mais la Dordogne reste toujours le personnage principal de ce tableau bucolique. Par quelques récits, Michel Carcenac évoque le temps sinistre de l'occupation, mais aussi il nous amuse avec ses souvenirs de médecin de campagne et de pilote d'avion débutant. Dans ses nouvelles, le talent de conteur de Michel Carcenac se confirme. De nombreuses anecdotes sur son pays font merveille pour découvrir le présent. Et puis le passé récent également. Alors, ce livre est édité par les éditions du Hérisson en 2002 et les éditions du Hérisson sont à Belvès. Voilà. Alors, je crois que tout est dit. On va revenir un peu donc sur ces histoires de la campagne qui sont plus ou moins truculentes. Alors, il y a un récit qui s'appelle Loup Renard. Loup Renard, bien évidemment, c'est le renard en français. Il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, donc, Loup Renard, la reine Rivalier est née à Loustange, propriété à l'orée de la Bécède, tout en rondeur, l'œil brillant, elle ne tient pas en place. Personne ne raconte des histoires en patois comme la reine. Alors, le nom de baptême de mon père, c'est Georges. Mais c'est pas beau quand on le crie dans les champs, il reste en travers de la gorge. Et aussi, on l'avait rebaptisé Philémon. Quand il était loin dans les terres, on l'appelait, c'était magnifique, Philémon, et qui n'en finissait pas, où j'en étais. Ah oui, Loup Renard. Un jour, mon père, les voisins, les Gamots de Gautier, les Françaises de La Roque, les Chinois de Magnani, toute la contrée nous ont dit, allez, il faut tuer ce renard qui déverse tous les poulaillers. À un moment, on avait pensé à un renard à deux pattes, mais les indices désignaient clairement l'animal. Il y a même eu le culot de laisser une crotte sur une pierre devant un de ses gardes-manger. C'était le printemps, la renarde nourrissait ses petits qui venaient de naître. Il en faut de la viande pour une nichée de renardeau. En d'autres temps, les adultes se contentent de mulots, d'insectes et de baies. Un dimanche matin, les chasseurs sont partis pour une battue. C'était pas compliqué, le terrier avait été repéré. Avec la terre tassée devant l'entrée et la bête était dedans après cette tuerie de la nuit. Les chasseurs piochaient, tapaient, faisaient tant de bruit possible. D'autres s'étaient postés, le fusil braqué devant la crosse. Une crosse, c'est une grotte, une petite grotte. Hein. Alors devant la crosse et puis à la sortie de l'animal pour lui laisser aucune chance de s'en tirer. À côté d'où ça se passait, il y avait la vieille Murat, la mère de la Gabrielle Murat. Celle des orisols, non, pas des orisols, des tuyères à côté de Vielvic. En Vielvic, c'est un hameau du côté de Belvès. Alors Notre-Dame, toute seule, avec sa fille depuis le matin, elle y était et elle lui dit, mes enfants, écoute Gabriel, il faut faire quelque chose, ces hommes regardent-les comme ils piochent là-bas pour essayer de nous tuer les renards. Qui nous mange tout. Ce qu'il faut faire, c'est une pleine soupière de soupe, On a du bouillon de carcasse, mets un fagot sous le toupie, je taille des tranches pour la tourte. Il est peut-être midi et il n'a encore rien mangé depuis ce matin. Ah oui, là, c'est grave, hein. Et hop, voilà la pauvre Louise, qui s'appelait Louise, qui part avec sa panière et dedans la soupière et les assiettes. Les hommes avaient déjà le vin. Il ne faut pas tout oublier quand même, hein. Bon, alors, Chitoté, asseyez-vous là. Tous en rond, devait être bien fatigué d'attendre depuis ce matin. Pauvre garçon, et vous n'avez rien mangé. C'est bien d'avoir pensé à nous, Louise. Vous êtes bien brave, comme tous les Murat, et de service. Un cabriole, un chabrol, ça nous redonnera du courage pour piocher ce terrier qui file on ne sait où. Les chasseurs se sont mis en rond, on a posé les fusils, mais il y avait toujours le terrier. Louise, mettez-vous là devant le trou, comme ça il ne sortira pas. Et nous, en attendant, on va manger la soupe. Le renard, c'était plus ce bruit de pioche qu'il entendait, mais le bruit des cuillères et des assiettes, ting, ting, ting. Les hommes faisaient chabrol et tout allait bien. La Louise était toujours devant le trou, comme on lui avait demandé. Au Gradau, et en s'en passant, à Gradau, c'est comme, je dirais, accroupi. C'est ça, accroupi. Tout d'un coup, la Louise sent quelque chose de chaud qui lui passe entre les cuisses. Elle se met à crier « Loup, 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 renard !» Pensez donc, le temps qu'elle crie, le renard était déjà loin. Voilà, alors ça c'est une histoire de chasse qu'on raconte souvent. Alors, bien sûr, on va revenir à une période peut-être un peu plus contemporaine avec la télé. Alors, bien sûr, la télévision maintenant, c'est rentré partout, on a même plusieurs postes. Alors, c'était un soir de Toussaint, donc la télé, c'était un soir de Toussaint quand les familles se rassemblent après le dîner. Une heure ou deux télévisions sont agréables et permettent à certains de satisfaire leur somnolence post-pradial. Ce soir-là, les programmes étaient médiocres et chacun de regretter le bon temps de l'ORTF. Avec la redevance que nous payons, ils pourraient faire mieux. C'était le leitmotiv, c'est cet inépuisable sujet de conversation qui provoque pas de brouille dans les familles. Si on s'énerve, c'est contre le gouvernement et ça, c'est permis. Un ami travaille au centre de la redevance télévisuelle à Toulouse, dit ma sœur, et on y reçoit des lettres anonymes désignant ceux qui ne paient pas. Une de ces lettres a fait le tour du service et elle disait à peu près ceci. « Monsieur le directeur, mon devoir de bonne française m'oblige à vous signaler que Madame Dupont ne paie pas la redevance télé. C'est scandaleux. Elle profite des émissions autant que les citoyens honnêtes qui paient eux. Si elle vous dit qu'elle n'a pas de poste de télé, répondez qu'elle en a. Elle est une menteuse, je le sais bien, qu'elle a un poste tous les soirs. Je regarde la télé chez elle. Comme quoi, toujours être trop beau. Alors, dans le genre, la mienne n'est pas mal non plus, dit mon beau-frère. Cela faisait 10 ans que nous avions la télé. Nous ne manquions ni Thierry Lafronde, ni 5 colonnes à la une, ni les incorruptibles, ni la caméra invisible. Voilà qu'en plein hiver, un parasite a pris possession de l'écran. À partir de 20h30, plus d'images, plus de sons. Le soir, je me suis mis à arpenter les rues du quartier, cherchant à capter d'éventuels bruits de moteur. Le garage d'à côté était fermé, je n'ai découvert aucun ronflement, aucune lueur d'arc électrique. Oui, c'est vrai que la télévision, quand même, a été bien pour passer les soirées. Alors, si une ombre se profilait dans la rue, je sais flotter, l'air dégagé d'un citoyen faisant sa promenade digestive. Quand j'écoutais aux fenêtres, je me prenais pour un mouchard de la dernière guerre espionnant les auditeurs de la radio anglaise. À bout de nerfs, écœuré d'être rejeté dans les clans de ceux qui peuvent profiter de cette magnifique avancée de la technique, j'ai écrit pour me plaindre au centre de redevance de Toulouse. Quelques jours plus tard, nous avions été surpris d'entendre la sonnerie de la porte après 9h du soir. J'ouvris à deux individus à la mine patibulaire, à l'estomac qui pointait en avant. J'estimais qu'ils avaient l'allure de gamelous et je me trompais guère. Si vous vous êtes plaint d'avoir des parasites sur votre poste de télévision, oui. Voici nos papiers, nous venez contrôler, vous pouvez allumer le poste. Bien sûr, asseyez-vous, prendrez bien un petit verre d'armagnac. Non merci, jamais un service. Ce soir-là, Thierry Lafronde était de retour, puis Elliot Ness à le moins zigzag pour les perturber. Tard dans la soirée, les gabelous s'en allèrent sans avoir répondu à mes interrogations sur le parasitage, sur la façon dont ils découvriraient le coupable, secret défense, certainement. C'est un événement aléatoire, me dirent-ils sur le pas de la porte. Ça ne renouvelle. Si ça se renouvelle, rappelez-nous. À ne jamais renouveler, leur mine patibulaire avait suffi à faire fuir les parasites. Quelques semaines plus tard, Héliotès était toujours au rendez-vous, un peu plus tard à mon goût, mais un sentiment de doute m'envahit. Alors, étais-je aussi pur, aussi respectueux des lois que ces braves inspecteurs? Je dis, mais je pris mes dossiers, j'ai fouiné pendant une heure, regardant les factures, les relevés de banque, et enfin, la vérité jaillit. J'ai protesté, réclamé mes droits, fait venir deux contrôleurs, espionner les voisins, mais je n'avais pas déclaré mon poste, et pas une fois de... Puis, en 10 ans, je n'avais payé la redevance télé. Voilà. Oh ben, redevance télé, ça sont des choses qu'on peut évidemment oublier. Alors, il y a une autre nouvelle, bon, moins gaie, enfin, si on peut dire, qui s'intitule « Les amoureux ». Le hameau de terre et les propriétés qui l'entourent sont une clairière dans la grande forêt de pins et de châtaigniers. J'ai possédé un noyau de clients fidèles qui savaient pouvoir compter sur moi en cas de coup dur, malgré les 15 kilomètres qui nous séparaient. Je venais d'examiner la grand-mère d'Auriac et je rentrais à la maison quand j'aperçus à 500 mètres de chez eux les époux d'Auriac qui sortaient du bois. La quarantaine, un bel âge pour les amoureux, et en effet, ils tenaient son mari tendrement lassé, les deux bras autour du cou. Ils me firent de grands gestes d'amitié auxquels je répondis par quelques coups de klaxon dans le rétroviseur et continuaient à me saluer, et cela me fit sourire. Je pensais que j'étais heureux d'avoir la confiance des gens aussi attachants des amis pour lesquels j'aurais fait s'envoler ma deux chevaux en cas d'urgence. Je précise que cela se passait à une époque où je ne possédais pas encore d'émetteur récepteur radio dans la voiture et qu'il n'existait ni pompiers, ni ambulances, ni SAMU, sans parler des téléphones portables. Pour une fois, j'arrivais chez moi, un peu avant les consultations de l'après-midi, avec l'espoir d'avoir une demi-heure pour déjeuner, tout en lisant le courrier. Ma femme ne m'a pas laissé le temps de descendre de voiture. Repars vite, Raymond Auriac a touché les jambes de sa femme avec la tronçonneuse et lui a fait un pansement pour arrêter le saignement. Ils t'ont vu passer, ils t'ont fait signe de s'arrêter, mais tu n'as rien compris. Ils étaient dans tous leurs états de te voir filer, va-t'en vite, sois prudent. Passe aux enfants. Eh bien oui, il faut, en toutes circonstances, faire attention aux enfants. Alors, sur les 15 kilomètres de route étroite, dans le bois, il n'y a pas 500 mètres de ligne droite. Raymond coupait un jeune chêne, me dit Huguette, et je le poussais pour faire tomber en avant. Une branche a fait ressort et a repoussé la tronçonneuse en arrière. Sur mes jambes, ça saignait beaucoup, je ne pouvais plus marcher. Je me cramponnais à Raymond pour sortir du bois. On a pensé que vous deviez être encore à la maison si on se dépêchait d'arriver à la route. Quand on a bu un de chaud, on était drôlement contents. Sauvé, je me disais, mais si vous aviez entendu les noms d'oiseaux dont on vous a traité, quand vous êtes passé sans vous arrêter, en klaxonnant. Et voilà, on n'a pas toujours le réflexe de soigner des gens, même mince. Alors, il y a une autre nouvelle qui s'intitule l'abbé Radigo. Alors, l'abbé Radigo... raconte des histoires et donc on analysait ses sermons et bien sûr il était présent pour écouter quand même ce qu'ils disaient. Alors un soir de réunion, je vais dire la fin, un soir de réunion n'y tenant plus, Raoul Radigon sortit de sa réserve et laissa échapper devant ses amis du cercle qui lui reprochait sa modestie. Et pourtant, je vous le dis, mais ne le répétez pas, ça n'est fallu de noix que je sois nommé évêque. Chacun était stupéfait de cette révélation. Le professeur de latin rompit le silence. Ainsi, monsieur l'abbé, il s'en est fallu d'un doigt, le doigt de Dieu. Et voilà, la semaine prochaine, nous verrons un peu les hydropathes. Voilà, en attendant, beaucoup de soleil, et je crois qu'il est présent. Au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.